Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Après la Silicon Valley, découvrez la Sustainable Valley, une exception française qui, ces dernières années, a vu naître une foule de nouveaux dispositifs et ateliers pour sensibiliser et accompagner le grand public et les professionnels pour comprendre et agir contre le dérèglement climatique. Loin de se concurrencer, les dispositifs se soutiennent et se complètent, parce qu'ils ont des sujets et des modalités différentes. Par exemple, quand on a fait une fresque du climat ou un autre atelier de quelques heures qui permet de prendre conscience d'un problème et renforcer ses compétences, après, on peut passer à l'action avec le challenge environnemental proposé par Energic, qui soutient ce podcast, et qui lui va durer 1 à 3 mois pour ancrer de nouvelles habitudes individuelles et être acteur de la transition écologique. Si vous êtes dans ces réflexions et que vous souhaitez en savoir plus sur Energic, qui est le partenaire de ce podcast cette saison, rendez-vous sur energic.io. Alors Gaëtan, je suis ravie de t'inviter au micro d'Écolo au boulot pour la deuxième fois. Pour ceux et celles qui avaient loupé ta première intervention, c'était en 2021. C'était l'épisode 19 du podcast, ça date un petit peu. Tu es sociologue et on avait parlé des transféreurs qui étaient un de tes objets d'étude. Donc les transféreurs, c'est ces salariés qui transfèrent des pratiques écologiques entre le domicile et le travail. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que ce qu'on observe dans les entreprises, au-delà des transféreurs, ce sont les éco-taffeurs. Eh bien, écoute, déjà, merci d'être là aujourd'hui pour en parler.
Bonjour Cassandre et merci de ton invitation, ravi de te retrouver.
Ce nouveau sujet d'étude, les éco-taffeurs, il part, j'ai l'impression, d'un constat qui est que dans les entreprises, on voit de plus en plus d'initiatives qui sont proposées, que ce soit par les salariés ou par les directions, pour mobiliser les salariés sur les sujets environnementaux. J'ai déjà pu, par le passé, parler de la fresque du climat, l'atelier de Tonne, Énergique, les collectifs, Printemps écologique. Et face à tous ces dispositifs de mobilisation, on peut se demander, ben, en fait, quels sont leurs impacts sur les entreprises. En tout cas, moi, c'est ce que je me demande quand j'ai l'occasion d'inviter les personnes qui sont dans ces, comment tu as appelé ça, Sustainable Valley à la française.
Le mot n'est pas de moi, mais j'ai repris l'expression, effectivement, qui me paraissait assez parlante pour décrire ce foisonnement, en fait, d'initiatives.
Ouais, voilà, moi, ce qui peut questionner, c'est est-ce que ça marche, en fait, au-delà de sensibiliser pendant une heure ou deux ou un temps un petit peu plus long. Qu'est-ce que ça permet de faire et comment ça fonctionne? Donc, tu as mené cette étude alors, avec des partenaires qui sont l'ADEME, le Collège des directeurs du développement durable, Entreprise pour l'environnement, l'Observatoire de la RSE et Action for Market. Donc, eux, c'est plutôt des acteurs qui représentent des instances dirigeantes, les fonctions RSE. Pourquoi est-ce que c'était important pour eux d'approfondir et de mieux comprendre cette mobilisation écologique des salariés?
Effectivement, dans les partenaires de cette étude, là que tu as cité, il y a des partenaires qui sont des associations de responsables RSE, dont les adhérents, finalement, qui sont donc ces responsables RSE, sont confrontés au quotidien dans les entreprises à un engagement des salariés croissant. Et donc, voilà, ils sont préoccupés, ils voient bien que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et donc ils se posent des questions, ils avaient besoin de réponses là-dessus. Côté ADEME, donc qui est un peu le partenaire historique de mon travail et qui avait notamment financé le travail sur les transféreurs, c'est un peu différent. Je pense que les transféreurs, ça leur avait montré que la cible salariée, c'est aujourd'hui un acteur important à prendre en compte sur le sujet de la transition écologique, mais on va dire que naturellement, l'ADEME au départ s'adresse pas vraiment aux salariés, s'adresse au grand public en général, mais pas spécifiquement aux salariés. Elle parle aux patrons d'entreprise, hein, avec des dispositifs qui leur sont adressés, mais la cible salariée, voilà, est un peu spécifique. Donc l'idée aussi pour l'ADEME, c'était de prendre la mesure un peu de ce phénomène, de voir aussi comment se positionner vis-à-vis de tous ces dispositifs de mobilisation.
Ok, trop bien. Et toi, personnellement aussi, pourquoi est-ce que tu as voulu continuer à explorer ce sujet après les transféreurs, comment c'est arrivé pour toi?
En fait, si tu veux, moi, quand j'ai travaillé sur les transféreurs, donc c'est une étude qui a pas mal intéressé et il y a eu pas mal de valorisation derrière, des présentations, j'ai eu des échanges, etc. Et notamment, dans le cadre de cette valorisation, j'ai vu émerger ces dispositifs de mobilisation. Et donc, j'ai pris conscience que, voilà, on n'était plus seulement dans des initiatives isolées et que le phénomène, il commençait à prendre une ampleur, à se structurer à travers un certain nombre de dispositifs, d'acteurs. Et donc, voilà, j'ai eu envie de rendre compte finalement de ce mouvement-là à travers cette nouvelle étude. C'est important, il faut savoir que moi, du coup, je travaille de manière un peu générale sur la transition écologique, pas seulement sur l'entreprise. Mais une de mes convictions, c'est que aujourd'hui, pour bien comprendre la transition écologique et à la fois les blocages, mais aussi les leviers dont on dispose, il faut vraiment regarder l'échelle des organisations. Je l'ai fait par exemple pour les copropriétés, sur la rénovation énergétique. Je l'ai fait avec les collectivités locales, avec les magasins de la distribution aussi. Et finalement, l'entreprise, bah, c'est une de ces organisations. Et je pense qu'aujourd'hui, la transition écologique, elle passe beaucoup par et elle va passer de plus en plus par les entreprises et donc aussi les salariés. Donc, c'était important de voilà, de bien suivre ce qui se passait dans ce domaine-là.
On ne peut plus d'accord, évidemment. Alors, c'est une étude qui a duré plus d'un an. Comment on fait une
Ouais.
étude sociologique sur ce sujet-là?
Bah écoute, donc moi j'ai une approche qualitative, donc ça se passe par enquête de terrain. On a fait une trentaine d'entretiens avec différents profils. On a fait aussi un peu d'observation dans des moments forts de ces dispositifs. Donc une première phase où on a fait un inventaire des dispositifs existants. On en a retenu une douzaine et on est allé voir leurs porteurs. Par exemple, on est allé voir Printemps écologique, on est allé voir les collectifs. On a fait un peu comme toi finalement des interviews comme ça et ça nous a permis voilà, d'avoir une première analyse de l'offre de mobilisation et du fonctionnement de ces dispositifs. Et puis dans une deuxième phase, on a donc choisi quatre dispositifs emblématiques, j'y reviendrai sans doute, et on est surtout allé faire des études de cas en entreprise pour comprendre justement l'impact aussi bien au niveau des salariés qu'au niveau de l'entreprise. Et donc, on est allé voir 12 entreprises, et à chaque fois, on croisait le regard, justement, salariés, responsables RSE. Et ça me permet d'ailleurs de préciser que on a principalement rencontré des grandes entreprises. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il se passe pas des choses ailleurs.
Ok, ça marche. Et les quatre dispositifs qui ont été étudiés plus en profondeur, c'est lesquels?
Alors, on a donc travaillé sur les collectifs, dans l'ACA, donc une plateforme digitale, Corporate for Change, un parcours d'intrapreneuriat. Et puis on a travaillé sur Deuton, hein, donc la suite de la fresque du climat.
Ok, dont certains qu'on connaît bien sur le podcast. Alors, donc, tu as fait cette première phase de panorama des dispositifs que tu as répartis en différentes catégories selon le format, la stratégie utilisée, la cible et l'objectif. Et ça, déjà, c'est un premier point qui est intéressant pour comprendre un peu ce foisonnement d'initiatives dont tu parlais. Tu peux nous expliquer quels sont ces différents critères?
Il y a beaucoup de dispositifs, nous on en a inventorié 30, mais il y en a bien d'autres. Notre panorama, il n'est pas exhaustif. En fait, l'idée, c'était de mettre un peu d'ordre, en tout cas de donner des repères pour s'y retrouver. Donc, on a proposé une typologie en quatre dispositifs, quatre types de dispositifs qui, en fait, associent à la fois une forme et une stratégie d'incitation à l'action principalement utilisée par le dispositif, parce que ce qu'il y a de commun entre ces différents types de dispositifs, c'est que c'est pas uniquement de la sensibilisation au sujet du réchauffement climatique. C'est vraiment des dispositifs qui ont pour objectif de faire passer à l'action les salariés. Simplement, ils le font de manière un peu différente. Alors, donc, on a des ateliers, par exemple, Ecofrugal Office ou Deuton. Et donc là, on voit que ce type de dispositif, il va jouer beaucoup sur la dynamique du groupe de pairs. Hein, donc, c'est une émulation collective. C'est un sentiment d'appartenance au groupe, c'est le partage d'expérience également. Après, on a un autre type de dispositif qui relève de ce qu'on a appelé les parcours, alors qui peuvent être parcours de formation ou d'accompagnement. Et là, ils cherchent beaucoup plus à transformer l'individu, donc à travers la formation, en lui donnant des compétences, mais aussi un travail sur les émotions. voilà, il peut y avoir de l'éco-anxiété. Donc, comment passer de l'éco-anxiété à l'action? Et donc, ce qui va différencier les parcours des ateliers, c'est qu'un parcours, bah, ça va être une suite finalement de rencontres, d'étapes. L'atelier, c'est plus one shot, on va dire. Là, on a bah, Corporate for Change, où c'est des parcours d'intrapreneuriat. On a particulièrement travaillé là-dessus. Mais il y a aussi des conversations carbone, par exemple. Ensuite, il y a deux autres types, c'est les plateformes digitales. Donc là, les plateformes digitales, elles vont jouer sur le ludique, elles vont jouer sur la mise au défi et cette approche un peu par la gamification, elle va permettre de toucher plus largement dans l'entreprise et pas uniquement des profils déjà sensibilisés, hein, mais vraiment d'aller chercher des profils qui vont être intéressés par la dimension ludique sans forcément à la base déjà être sensibilisé à la transition. Et puis le dernier type, c'est ce qu'on a appelé les réseaux, et qui sont en fait des fédérations de groupes de salariés activistes de l'écologie dans l'entreprise. Et donc là, on a les collectifs évidemment, mais on a aussi le réseau FEV, ou encore le printemps écologique, hein, donc qui est ce syndicat que tes auditeurs connaissent. Donc là, ce qui est intéressant avec ces réseaux, c'est que ils vont venir renforcer la capacité d'action de groupes locaux dans les entreprises et voire même apporter une dimension politique à leur action. Donc voilà, donc on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment une diversité de formes de mobilisation écologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on va pouvoir panacher, hein, en fonction bah, des situations voilà, de l'entreprise et des envies des salariés.
Ouais, complètement, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce panorama, c'est que en fonction de l'objectif qu'on va avoir en entreprise, ce sera pas le même type de dispositif qu'on va aller chercher. Donc tu as inventé un nouveau mot qui est l'éco-taffeur, qui est donc bah, une personne écolo au boulot, hein, moi je le qualifierais peut-être comme ça, et dans les interviews que tu as menées, tu as trouvé un peu des dispositions communes à ces éco-taffeurs, peut-être parfois un parcours un petit peu identique qui les a amenés à vouloir agir sur ce sujet de l'écologie dans leur entreprise. Donc voilà, en tant que salarié, tu peux nous en dire plus sur eux?
Ouais, peut-être préciser d'abord pourquoi je propose ce nouveau néologisme. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, les néologismes, où ça permet de marquer un petit peu les esprits. Les transféreurs, ils existent toujours en fait, hein. Et ils sont même à la base de ce mouvement de mobilisation écologique. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a changé d'époque et les transféreurs, en fait, ils ont lancé un mouvement qui a atteint de manière beaucoup plus générale l'entreprise, qui a atteint déjà une diversité de cibles de salariés, mais qui a atteint aussi la RSE, qui est en train de changer son approche aujourd'hui. Hein, on en reparlera peut-être. Et puis qui atteint aussi tout un tas de d'autres directions, d'autres sites, d'autres métiers, hein. Et donc, voilà, ce que je voulais dire en proposant ce terme d'éco-taffeur, c'est que on n'est plus à l'époque des transféreurs. C'est pas qu'ils ont disparu, c'est qu'aujourd'hui le phénomène il a pris une ampleur beaucoup plus large. Et donc, on est plus devant une galaxie d'éco-taffeurs que devant quelques initiatives isolées de transféreurs. C'est quand même plutôt des jeunes, hein, génération Y, moins de 40 ans, en recherche de sens au travail. Ils peuvent être par ailleurs dans le chiffre project ou ils peuvent être fresqueurs aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils suivent un peu toujours le même parcours. Donc d'abord, il y a un déclic écologique à titre perso. Donc bah ça va être, je sais pas, l'occasion du confinement, d'un voyage à l'étranger. Ils vont commencer à changer leurs pratiques. Et puis à un moment, voilà, il y a une dissonance qui va apparaître et donc va se poser la question du travail. Et là, il y a un dilemme qui va apparaître. C'est est-ce que je reste dans mon travail avec une entreprise qui, voilà, a un impact pas forcément positif et même souvent négatif sur l'environnement, ou est-ce que je démissionne? Et ce qu'on voit, c'est que ces salariés, souvent, ils éprouvent une loyauté à leur entreprise qui va les amener à faire le choix de rester pour faire bouger les lignes de l'intérieur et avec une croyance que en restant dans l'entreprise, leur impact écologique sera supérieur à changer pour un nouveau métier, pour une nouvelle entreprise. Voilà, ils ont l'idée que en fait, en essayant de transformer l'entreprise de l'intérieur, ça va faire comme un effet levier sur leur impact écologique.
En gros, quand on se pose ces questions de dissonance cognitive au travail, soit on devient éco-taffeur, soit on devient désert, enfin, on déserte ce système et on va faire autre chose, quelque part.
C'est un peu ça, ouais.
Ok. Et donc là, on a parlé des salariés qui mettent en place des dispositifs de mobilisation, mais ça peut aussi être les services RSE directement qui mettent en place ces dispositifs. Et là, côté entreprise, qu'est-ce qui les motive maintenant à sensibiliser leurs salariés sur les questions écologiques à travers ces dispositifs-là?
Alors, complètement, c'est-à-dire que justement, une des nouveautés de cette étude, c'est que si à l'époque des transfert-heures, c'était vraiment la mobilisation écologique, c'est des salariés, c'était quelque chose qui passait sous le radar de la RSE, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ou en tout cas, c'est vraiment de moins en moins le cas. Voilà, on a une bonne partie des responsables RSE qui sont bien conscients qu'aujourd'hui, il faut faire avec les salariés. Et qui d'ailleurs lancent eux-mêmes des dispositifs de mobilisation, que ce soit les parcours, que ce soit les ateliers ou les plateformes digitales qui, en fait, pour une partie, demandent des budgets à l'entreprise. Et donc, du coup, voilà, ils doivent eux-mêmes s'engager, ces responsables RSE, pour trouver ces budgets, pour financer ce type de dispositif. Ce qui est important de voir, c'est que globalement, aujourd'hui, la RSE, elle monte en puissance très fort dans les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises. Il y a un levier important de ça, c'est ce qu'on appelle les déclarations de performance extra-financière. Hein, donc une nouvelle contrainte réglementaire finalement pour les grandes entreprises qui les oblige à disons, à mettre la RSE en priorité, des attentes des marchés, etc. Et donc au final, on voit que la transition écologique, elle fait de plus en plus souvent partie des priorités stratégiques de l'entreprise. Et ça amène à des changements forts. Et évidemment, les responsables de l'entreprise, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas faire bouger l'entreprise pour l'aligner avec des objectifs RSE sans associer les salariés. Hein, et donc, y a cette conscience qui se développe chez les dirigeants. Que pour voilà amener l'entreprise à être plus conforme à des objectifs de transition, il va falloir le faire avec les salariés. Et donc le lancement de ces dispositifs de mobilisation correspond à ça, hein, à ce besoin d'associer les salariés à ces sujets-là.
Ok, et les salariés, eux, on voit aussi qu'ils n'ont pas tous les mêmes rôles un petit peu dans les dispositifs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être les éco-taffeurs les plus moteurs qui vont être ceux qui disent bah, venez, on fait un atelier d'automne, je l'organise, etc. et qui vont être vraiment moteurs. Il y a les salariés qui sont plus relais et les simples participants. Cela, comment, enfin, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur comment tu les décris et voilà, quel est le rôle de chacun dans le fait que ces dispositifs y fonctionnent?
Ouais, eh ben effectivement, là aussi c'est un des apports de cette étude, c'est de montrer que au-delà de justement des transféreurs, hein, donc des éco-taffeurs les plus moteurs parmi les salariés, il y a aussi d'autres rôles qui se dessinent. Hein. On peut être mobilisé sur l'écologie dans son entreprise sans être forcément un transféreur. Donc il y a d'abord on peut dire que la majorité des salariés ne participent pas à cette mobilisation écologique encore. Voilà, donc, il y en a une bonne partie qui ne participent pas. On peut simplement participer à des événements qui sont proposés, on peut participer une fois à un atelier d'automne, on peut déclarer une action sur l'ACA, par exemple, voilà, sans forcément en restant dans quelque chose de ponctuel. Et je pense que la majorité des salariés mobilisés, ils le sont en tant que, j'ai envie de dire, simples participants. Après, il y a un rôle un peu plus engageant qui est celui de relais. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi les ambassadeurs RSE, souvent. Hein, donc, c'est, voilà, dans les entreprises, la RSE va proposer à un certain nombre de salariés d'avoir un rôle au niveau de leur service pour diffuser les messages RSE, pour parler des dispositifs qui sont lancés. Hein, et donc, Voilà, c'est finalement répondre en priorité aux propositions de la RSE. Et puis après, effectivement, il y a des salariés moteurs. Et donc là, c'est plutôt ceux qui vont lancer des dispositifs, qui vont décider de commencer à animer dès d'automne dans l'entreprise. Ça peut être aussi voilà, ceux qui vont animer et créer un collectif dans l'entreprise. Donc voilà, c'est des gens qui vont y consacrer là plusieurs heures par semaine souvent. Donc il va de soi que tous les salariés peuvent pas être dans cette posture-là et qu'il y a finalement un dégradé de participation à ce mouvement.
Ouais. Mais ce que tu viens de dire, que tout le monde ne peut pas participer, en fait, même s'ils sont qu'une poignée à être moteur ou même à être relais, il y a une question aussi importante qui se pose, c'est le temps qui peut être consacré à ces dispositifs, à cette animation. Ben voilà, prendre le temps d'aller diffuser des messages de la RSE, il faut que ce soit prévu sur le temps de travail et ça ne l'est pas toujours. Et là-dessus, alors c'est quelque chose que tu as remarqué dans l'étude. Je ne sais pas s'il y a des solutions qui ont émergé. J'ai vu la mention du crédit temps écologique, mais ça, c'est quelque chose qui existe quand même assez peu encore.
Ouais, bah c'est clairement c'est un point dur de l'engagement, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui les entreprises n'accordent pas de temps dédié à cet engagement. Alors ça peut se faire dans le cadre de dispositifs de mécénat comme le propose notamment Vendredi. Donc ça c'est effectivement intéressant, mais ce qu'on voit souvent c'est que ça permet pas une mobilisation à l'intérieur de l'entreprise, c'est plutôt pour donner du temps à des associations. Donc, du coup, quand on est vraiment dans un changement de l'entreprise ou de l'intérieur, ça se fait un peu en temps masqué, hein, ça se fait voilà, dans les creux de l'activité professionnelle. Alors, dans les solutions, entre guillemets, il y en a deux. Il y a bah, s'appuyer sur des temps qui sont déjà sanctuarisés par l'entreprise. Donc, je pense à la formation notamment. Hein, 2 tonnes, par exemple, maintenant, c'est éligible. À la formation Corporate for Change, c'est pareil. On peut aussi l'utiliser dans le cadre de séminaires d'équipe. Et donc là, on va s'intégrer dans des temps qui sont déjà finalement, qui sont déjà réservés par l'entreprise pour les salariés. L'autre piste, il me semble, c'est la piste des managers d'équipe. Voilà, parce que c'est un peu eux qui ont la main, hein, sur voilà, l'emploi du temps des salariés. Donc, faut pas hésiter à solliciter son manager sur ce sujet-là, voire à formaliser un petit peu cet engagement-là, demander une demi-journée par semaine ou une demi-journée par mois. Mais déjà le fait de voilà, avoir le consentement, on va dire, du manager peut libérer là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a juste pour terminer là-dessus. Il y a un sujet à porter généralement sur ce phénomène qui est qu'aujourd'hui, les entreprises, il faut qu'elles soient conscientes que ça a vraiment un intérêt pour elles d'accorder ce crédit temps écologique aux salariés.
Et oui, et il me semble aussi avoir lu dans l'étude que pourtant le management intermédiaire, ce n'est pas le plus facile à embarquer dans ces dispositifs parce que justement, ben, ça prend du temps à leurs équipes et ils sont peut-être
Clairement.
moins enclins aussi.
Bah, oui, les managers intermédiaires, c'est ceux qui ont les objectifs en termes de business. Voilà. Et donc finalement, ils peuvent voir la mobilisation écologique, la participation à ces dispositifs comme du temps perdu par rapport à l'opérationnel. Donc, l'erreur à ne pas faire, ça serait de leur imposer finalement que la direction impose comme une injonction, participation à la fresque du climat, par exemple, ce genre de choses. Il me semble que c'est intéressant que ça reste quand même une démarche volontaire et que du coup, il faut plutôt chercher à convaincre les managers et notamment la question de la motivation des équipes, de la cohésion des équipes, d'éviter le turnover, voilà, le sens au travail, etc. C'est peut-être un bon levier. Pour les impliquer.
Ça marche. Et ceux qui doivent aussi travailler différemment avec ces dispositifs, tu disais, c'est les directions RSE. qui aujourd'hui ben, mènent leurs propres actions, mais doivent impliquer leurs salariés, ou alors voient des groupes de collectifs de salariés qui arrivent avec ben, des revendications qu'eux, ils n'avaient peut-être pas sur leur feuille de route RSE. Comment est-ce que les deux, ils travaillent ensemble?
Ouais, bah c'est vrai que, alors, il y a le cas où la RSE lance elle-même un dispositif, mais il y a le cas aussi où c'est les salariés qui prennent l'initiative. Et donc là, ça peut secouer un peu la RSE, qui du coup se retrouve même questionnée dans sa légitimité. Finalement, il y a des salariés qui font, entre guillemets, un peu son travail. Voilà, et donc, qui parlent de ces sujets. Donc, on voit que, bah, il peut y avoir de la réticence, hein, chez certains responsables RSE, des craintes, mais se met en place aussi des modes de collaboration avec les salariés. Je crois que c'est essentiel, voilà, si on veut que ce mouvement-là il ait un impact sur l'entreprise, sur une majorité des salariés, il faut s'appuyer sur une collaboration avec la RSE. Donc, les RSE, on a fait une typologie, elles peuvent se positionner différemment. Il y en a qui sont clairement facilitatrices, hein, qui vont être vraiment partenaires des salariés, les aider à faire avancer leurs projets. Il y en a qui vont être un peu plus prudentes, hein, on a dit garde-fous, hein, pour s'assurer que les actions menées par les salariés engagés soient bien alignées avec les objectifs de l'entreprise. Et puis, il y a carrément des RSE qu'on a qualifiés de suivistes. C'est pas négatif, c'est l'idée qu'elles vont se reposer finalement sur les salariés pour mener des actions de mobilisation et ensuite les intégrer comme une brique de leur stratégie, mais elles vont laisser finalement faire les salariés. Donc voilà, différents positionnements, et en tout cas, je pense que c'est essentiel que les RSE aujourd'hui voilà, travaillent, apprennent à travailler, à collaborer avec ces communautés de salariés qui émergent.
Il y a la RSE et puis il y a aussi les directions au sens un petit peu plus large. Donc disons qu'avant la RSE, il fallait qu'ils arrivent à convaincre la direction que ce sujet était important. Maintenant, ils doivent les convaincre que non seulement c'est important, mais il faut que ce soit important pour tous les salariés dans l'entreprise. Et les comités de direction sont plus ou moins sensibles à ce sujet, même si il me semble qu'elles le sont de plus en plus. Mais ce que tu disais ce que tu dis dans l'étude, c'est que c'est plus facile en fait de les convaincre que c'est intéressant ces dispositifs-là quand ils y participent eux-mêmes, quand ils l'expérimentent eux-mêmes.
Ouais, effectivement, parce que dans les comités, alors les comités de direction sont toujours partagés, c'est-à-dire que un comité de direction c'est un groupe de personnes, donc il y en a deux trois qui vont être très sensibles, la majorité va être intéressé par le sujet, mais sans forcément être très engagé. Puis il y aura toujours des récalcitrants. Donc, effectivement, les salariés, il faut qu'ils fassent alliance avec les membres du COMEX, qui sont déjà les plus engagés. C'est peut-être eux qui vont entraîner leurs collègues. Et après, effectivement, du côté des dispositifs, on voit que voilà, il faut essayer de donner un rôle aux membres du COMEX pour leur faire toucher du doigt finalement ce qui se passe un peu, c'est dans cette mobilisation écologique des salariés, qui se rendent compte en fait de l'énergie qu'il y a là-dedans. Et donc bah, pour donner des exemples, voilà, dans des entreprises, on demande à des membres du COMEX d'être jury des projets des salariés qui émergent d'un parcours d'intrapreneuriat corporate for change. Voilà, donc c'est une manière pour eux de voir un peu ce qui se passe, ou tout simplement on fait faire un 2 tonnes au COMEX. Et donc là, ils expérimentent par eux-mêmes et souvent ça permet, voilà, de faire pencher la balance du COMEX.
Il y a aussi cette idée que en fait, grâce à cette mobilisation des salariés dans les entreprises, il y a comme ça crée comme un rapport de force qui est un peu nouveau aussi au sein des entreprises pour la transition écologique. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris ce point-là. Donc, je veux bien que tu expliques un petit peu ce que tu voulais dire par là.
Ça m'amène à évoquer un concept qu'a proposé Bruno Latour, donc un sociologue qui est décédé l'année dernière, où il parle de nouvelles classes écologiques, qui reprend le concept de classe sociale finalement, qui est bien connu en sociologie, pour montrer qu'aujourd'hui, il y a un nouveau rapport de classe qui s'instaure, donc une fracture dans la société finalement, entre ceux qui sont conscients et en action sur les sujets écologiques et ceux qui ne le sont pas encore. Ouais. Et donc ce que je voulais dire en reprenant ce concept-là, c'est que bah, finalement, moi j'ai le sentiment que les éco-taffeurs dans l'entreprise, qui sont aujourd'hui justement plus ces salariés isolés, transféreurs, qui essayent un peu dans leur coin de mener quelques actions, mais qui sont toute une diversité de salariés, à la fois moteurs, d'autres simplement relais, d'autres simplement participants, mais qui sont aussi des éco-taffeurs, c'est aussi des responsables RSE qui lancent ces dispositifs de mobilisation, qui s'engagent parce que ils prennent aussi des risques, ils deviennent solidaires un peu de la réussite de ces dispositifs qu'il faut financer. Et puis c'est aussi au sein des différentes directions métiers, des RH, de différents services supports, les services généraux, etc. Tout un tas de personnes qui vont devenir des alliés de ce mouvement-là. Voilà. Et donc toute cette galaxie-là, ça forme au sein de l'entreprise une forme de classe écologique qui finalement va faire pression pour faire changer l'entreprise dans le sens de la transition écologique. Et donc là, il y a un rapport de force qui se crée au sein de l'entreprise entre l'ancien et le nouveau monde, si on peut dire.
Ok, donc on n'est plus sur des petites initiatives isolées, mais sur quelque chose qui
Sur
peut
un mouvement
transformer
social, ouais.
l'entreprise. Et ça fait un bon lien du coup avec ma question suivante, qui est en fait question logique, mais est-ce qu'en fait tous ces dispositifs ils fonctionnent et est-ce qu'au final la trajectoire écologique des entreprises elle s'améliore grâce à ces dispositifs?
Alors, ouais, toujours un peu compliqué de répondre à cette question-là de manière tranchée, notamment dans une étude qualitative. On travaille finalement sur 12 cas d'entreprise. Faut prendre aussi ça avec des pincettes, je le disais, surtout des grandes entreprises. Après, on a quand même constaté des choses intéressantes, des indices d'une accélération des trajectoires écologiques des entreprises. Il y a le niveau des éco-gestes. Déjà, les plateformes, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent, par exemple, Énergique ou l'ACA, de mesurer un peu ce qui se passe. Voilà, parce que les salariés déclarent ce qu'ils font sur ces plateformes-là. Et donc, voilà, les plateformes, elles mesurent qu'il y a une accélération assez forte des éco-gestes. Je crois que ce qui est encore plus intéressant, parce que l'impact écologique est plus grand, c'est ce qui se passe au niveau des pratiques métiers. Des pratiques métiers des salariés, donc de ce qu'ils peuvent changer dans l'exercice de leur métier au quotidien. Est-ce que, voilà, ils vont continuer à se déplacer systématiquement pour des réunions ou faire plus de place à la visio? Est-ce qu'ils vont, dans les choix de produits de leurs fournisseurs, est-ce qu'ils vont intégrer des critères de durabilité, etc. Là, on voit que ces pratiques métiers, elles sont travaillées par ces dispositifs, et comme elles dépendent beaucoup des salariés, finalement, voilà, leur mobilisation sur les sujets écologiques fait qu'ils se questionnent, qu'ils évoluent sur ces pratiques métiers. Alors la limite, après, elle est plutôt au niveau de la stratégie de l'entreprise, hein, c'est-à-dire bah, la stratégie de l'entreprise. Le modèle d'activité de l'entreprise, ça reste quand même d'abord la responsabilité des dirigeants, ce qui ne veut pas dire que aujourd'hui les salariés revendiquent pas un droit d'expression, hein, sur finalement les choix de l'entreprise. Voilà, est-ce qu'on va chercher ce marché-là alors qu'on sait que ça peut avoir un impact négatif, ou est-ce qu'on va plutôt se développer ce marché-là? Qui peut avoir un impact positif. Les salariés ont envie de s'exprimer là-dessus, mais on voit que là, ça bloque du côté des dirigeants.
Ouais, ce sera peut-être pour dans quelques années qu'il y aura de
Ouais.
nouveaux dispositifs de gouvernance un peu plus.
Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de dirigeants impliqués et engagés. Et je pense que là, il y a une jonction à faire, hein, parce qu'on a la Convention des entreprises pour le climat, on a le mouvement Impact France, etc. Et donc, il y a sans doute une jonction à faire entre ces mouvements de patrons engagés, et puis ces mouvements de salariés, engagés, d'éco-taffeurs.
Et il y avait un point que je voulais voir aussi, c'était ben, l'étude, elle a été faite surtout dans des grandes entreprises, tu l'as dit. Est-ce que ça veut dire que ces dispositifs, ils sont moins utilisés dans des plus petites entreprises, dans des TPE, dans des PME? Ou est-ce que à court terme ou à moyen terme, ça pourrait tout à fait s'étendre à des plus petites structures?
Oui, je pense que ça a tout à fait le potentiel de s'étendre à des plus petites structures. Alors déjà, ce qu'on voit dans l'enquête, on n'a pas travaillé que sur des grandes entreprises, on a aussi travaillé sur ce qu'on appelle des ETI, donc établissements de taille intermédiaire. C'est des entreprises qui ont moins de 5 000 salariés, donc qui sont, on va dire, des très grosses PME. Alors ce qui est intéressant là, c'est que c'est souvent des entreprises dans lequel la fonction RSE est récente ou est en train d'être créée ou développée. Ce qu'on voit, c'est que le fait que des salariés s'engagent, bah, fait que ils peuvent être finalement les nouveaux responsables RSE sont parfois recrutés en interne parmi ces salariés engagés. Donc voilà, il y a ce mécanisme-là qu'on voit. Et puis pour les PME ou les TPE, bah, ce qu'on peut dire, c'est que bah souvent déjà il n'y a pas de fonction RSE, donc ce qui va être déterminant, c'est la sensibilité écologique du patron, que bah, c'est des entreprises qui ont moins de moyens, donc voilà, qui vont déjà pas lancer forcément un dispositif qui va avoir un coût. Et puis pour les salariés, bah, c'est peut-être plus difficile de dégager du temps, hein, parce qu'on a remarqué que dans les grandes entreprises, c'est quand même beaucoup dans les fonctions support. Hein, où il y a une liberté d'organisation, que c'était surtout des cadres, hein, des gens qui ont finalement la main sur leur emploi du temps, qui s'engageaient sur ces sujets-là. Et donc dans les plus petites entreprises, voilà, on est plus proche de l'opérationnel. Alors par contre, l'avantage, c'est que bah, dans une petite entreprise, dès qu'un salarié s'y met, il va très vite réussir finalement à toucher l'ensemble de l'entreprise, parce que l'échelle est moindre, que voilà, il y a une interconnaissance plus forte. Donc oui, moi je crois que ça peut s'étendre et ça va s'étendre aux petites entreprises.
Ok, bon bah écoute, bonne nouvelle. En tout cas pour elles, c'est peut-être un peu plus difficile au démarrage, mais elles vont vite rattraper leur retard du fait de leur taille qui est plus adaptée. On arrive au bout de cet entretien. Je vais te poser ma question traditionnelle. Quel conseil écolo au boulot tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent? Et d'ailleurs, si tu le sens, moi j'aimerais bien t'en demander deux. Un pour les salariés éco-taffeurs et un plutôt pour les directions RSE ou les directions en général qui sont face à ce phénomène.
Bah, effectivement, alors si je commence par les responsables RSE, clairement, c'est pour certains des responsables, ils voient pas ça comme leur priorité. Voilà, ils sont plus tournés vers la direction, ils ont des nouvelles obligations réglementaires. Je parlais de cette déclaration de performance extra-financière, il y a toujours ce fameux rapport RSE derrière. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut pas qu'ils passent à côté de ce phénomène. Tout simplement parce que c'est vraiment un amplificateur de l'action de la RSE. Hein, c'est l'idée que voilà, c'est d'avoir des relais partout dans l'entreprise à travers ses salariés. Mais ça suppose qu'ils aient pas peur finalement d'aller vers les salariés engagés, motivés et d'aller travailler avec eux. Il peut y avoir des frottements au départ, hein, parce que voilà, ces salariés engagés, ils veulent tout sauf du greenwashing et ils peuvent y voir peut-être un peu la RSE comme du greenwashing. Mais dans ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est que quand il y avait une collaboration qui s'instaurait, voilà, ça permettait vraiment de faire bouger les choses dans l'entreprise. Donc ça vaut le coup de se rencontrer et d'essayer de travailler ensemble. Et puis côté salarié, bah, je dirais que faut se lancer, voilà, faut initier des actions de mobilisation des collègues, faut se regrouper avec d'autres salariés engagés dans d'autres services, hein, faut pas hésiter à sortir de son service, de ses relations habituelles. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, le numérique aussi qui permet de trouver des alliés, voilà, au sein de l'entreprise. Voilà, donc créer son collectif et puis aussi saisir les opportunités que propose la RSE, voilà, d'être ambassadeur, voilà. Et donc pour faire ça, faut peut-être pas trop demander l'autorisation à son manager. Voilà, faut y aller et puis il verra bien à un moment que ça a un sens. Voilà, mais il faut se lancer, ouais. Ce serait dommage de ne pas participer à ce mouvement.
C'est ça, qui est un mouvement qui est en train de s'amplifier. Et bah écoute, merci beaucoup pour tes conseils et pour présenter cette nouvelle étude qui donne de l'espoir, on peut dire ça.
tant mieux, on en a besoin.
Et qui montre que voilà, on n'est pas tout seul dans nos entreprises à vouloir faire changer les choses. Ça se diffuse un peu partout.
Merci Cassandre.
En définitive, les transféreurs ont ouvert la voie. Et ces dernières années, on a vu l'émergence des éco-taffeurs, des acteurs clés qui impulsent ou qui participent activement à des initiatives écologiques en entreprise, que ce soit en tant que participants, relais ou véritables moteurs du changement. Cependant, un défi persiste, c'est clairement le temps dédié à ces engagements. Même en s'insérant dans des créneaux existants comme les formations ou les séminaires, l'enjeu du temps reste crucial pour aborder des sujets transversaux dans l'entreprise tels que l'écologie et la RSE. La fonction RSE, d'ailleurs, doit maintenant composer avec cette nouvelle dynamique des éco-taffeurs, en développant des formes innovantes de collaboration. Quant aux dirigeants, ils ont besoin de vivre, de ressentir cette mobilisation pour en être convaincus. Là où l'espoir réside, c'est aussi dans l'émergence d'une nouvelle classe écologique au sein des entreprises, composée de plus en plus d'acteurs engagés qui peuvent accompagner et entraîner les autres dans ce passage nécessaire. Donc la transition écologique des entreprises, plus que jamais, repose sur l'implication de leurs salariés. Si vous êtes prêt à passer à l'action, voici mes conseils en 3 niveaux. Niveau 1, à votre échelle individuelle. Explorez l'étude EcoTaf pour trouver le dispositif le mieux adapté à votre situation. Est-ce un atelier, un réseau, un éco-syndicat ou peut-être un parcours? La plupart de ces dispositifs peuvent d'ailleurs être testés en tant que simple citoyen avant de les déployer en entreprise. Niveau 2, entre collègues ou au niveau d'un service, c'est parfois la bonne échelle pour tester un atelier ou pour créer un collectif. Commencez petit avant de maximiser l'impact. Et niveau 3, au niveau de toute l'entreprise, utilisez les dispositifs existants avec une vision holistique. On l'a dit, ils se complètent. Donc en fonction de vos objectifs, choisissez les dispositifs de mobilisation écologique des salariés qui y vont convenir. Plutôt que de les proposer de manière un peu aléatoire, planifiez intelligemment en intégrant ces dispositifs de mobilisation pour atteindre un objectif précis. Parce que la synergie entre eux, ça va être la clé de la réussite. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre « Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir » publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao !